commence. Et on va d'abord écouter Stéphanie Raimondi, qui est une artiste aussi liée à l'Institut Espace Cerveau. Oui. Et donc Stéphanie, elle est diplômée en 2008 à l'École nationale supérieure d'art des Villarsons. Après l'obtention d'un post-diplôme de RAID à Genève en 2009, elle participe à plusieurs expositions ici en France, à l'étranger, et aussi elle a vécu de beaux années au Brésil. Oui, c'est ça. Stéphanie Théo? Ah, oui. Alors, donc, ses œuvres ont été montrées notamment à Genève, à Zurich, Marseille, etc. Et aussi au Brésil, à Fabrica Bering, où j'ai déjà participé un tour là-bas aussi. Hein. Donc, voilà, je te donne la parole. Je suis très contente de te voir entre nous et très contente de pouvoir passer du temps avec toi, tous des réunions qu'on a faites pour penser cette station-là. Donc, Stéphanie va parler sur cinéma et animisme. Et ben, voilà, je te donne la parole.
Oui, donc là, je vais partager des notes de recherche qui me servent souvent à nourrir ma pratique. Donc je suis allée puiser dans plusieurs ouvrages que je citerai à la fin, et j'ai essayé de compiler une histoire succincte de ces questions d'animisme et de cinéma depuis le début du XXe siècle. Je vois juste un petit coup d'eau. Donc, les questions de changement d'état et de transformation sont au cœur de mes considérations plastiques. J'ai nourri ces recherches de réflexions sur l'image animée et sur le médium cinéma en tentant de remonter aux premières théories animistes qui datent de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle à travers les recherches de chercheurs comme Jean Epstein, Gilles Deleuze, Abhi Warburg et plus récemment celle du réalisateur thaïlandais Apichatpong Virasatakul. Les premiers théoriciens du cinéma, donc très tôt, fin du XIXe, ont tout de suite perçu la puissance du cinématographe et sa capacité à animer le réel. Machine autonome et opérante, capable de doter de vie des objets et de faire sortir le spectateur de lui-même. Donc, le cinéma des premières décennies n'est pas seulement un dispositif de représentation, mais il est décrit dans un cadre anthropologique, comme une machine d'une efficacité et d'une puissance propre. Abhi Warburg, 1866-1929, définit quatre fonctions de l'image. L'image qui génère et réactive une présence, l'image comme révélatrice d'une dynamique interne, l'image comme instrument de pensée, et enfin l'image comme force quasi vivante d'intervention. Warburg part de présupposés dynamiques et non plus statiques, donc c'est une vraie révolution, ce qui produit un renversement complet dans la manière de comprendre les images. Il scrute, par exemple, dans la peinture du Quattrocento, les traces du mouvement qui traverse les figures. Il s'agit, pour celui qui regarde, d'adopter le point de vue du mouvement. Donc c'est un changement de paradigme. Il élargit le champ de l'histoire de l'art à celui de l'anthropologie. En effet, en 1895, il fait un voyage aux États-Unis et commence à rassembler dans les territoires des Indiens Hopi une documentation sur les rituels qu'il observe. Il s'agit pour lui d'établir des correspondances entre ce qu'il voit à travers ces rituels et les images de la Renaissance qu'il est en train d'étudier. Il s'intéresse donc aux fonctions de présence de l'image et après parlera de questions de survivance de l'image. Les réflexions qu'il mène sur l'animation des images dans la peinture peuvent déjà être comprises comme des études préliminaires à une forme d'animisme de l'image. Jean Epstein, plus tard, 1897-1953, scientifique, théoricien et cinéaste, considère le cinéma ou le cinématographe comme un super organe sensoriel complexe qui génère de la pensée fondée sur les émotions. Il utilise des métaphores naturelles pour décrire l'action métamorphique de l'image. Je cite « Grâce au ralenti et à l'accéléré, les cristaux se mettent à végéter à la manière de cellules vivantes. Les plantes s'animalisent. donc dans son ouvrage « L'intelligence d'une machine » en 1946. Les théories de la métamorphose et de l'élargissement de la représentation qu'il élabore ont pour but de changer la vision du monde du spectateur. La matière filmée, inerte, devient vivante et animée. Epstein considère le cinéma comme un art qui pourrait rendre visible l'animus des choses, c'est-à-dire l'animisation, l'âme et la mobilité, où les objets deviennent des sujets actifs. On peut retrouver ses réflexions dans son ouvrage « L'âme au ralenti » en 1928. Jean Epstein s'est également intéressé aux états de conscience modifiés, aux états de rêve et de fatigue, états qui sont à la frontière entre l'abandon et la raison, l'état de rêve et de veille. Dans son ouvrage « Rapidité et fatigue de l'homme spectateur » en 1949, il explore les territoires de l'inconscient, le rêve éveillé faisant office de véhicule pour voyager et le cinéma comme médium privilégié pour partager ses expériences. Pour définir la puissance de l'expérience cinématographique, Jacques Rancière insiste sur la capacité de dépasser le psychologie, de faire voler en éclats ce quasi-visible et de capter les énergies physiques et mentales, individuelles et collectives, mémorielles et mythiques, humaines et cosmiques. Le cinéma, pour Jacques Rancière, comme pour Jean Epstein, c'est l'œil exact, voyant et captant pour le spectateur des ombres imperceptibles et atteignant la dimension esthétique, comme un mode, le cinéma comme un mode spécifique du sensible. C'est ce mode que Godard, d'ailleurs, appelle du nom de mystère, corroborant ainsi la nature surnaturelle ou mystique que Jean Epstein attribuait au cinéma. Qu'est-ce donc que ce mode du mystère ou ce mode mystique du sensible? C'est le mode qui abolit l'opposition entre un monde intérieur et un monde extérieur, un monde de l'esprit et un monde des corps, qui abolit les oppositions du sujet et de l'objet, de la nature scientifiquement connue et du sentiment éprouvé. Jacques Rancière propose un enrichissement des fonctions de l'image et démontre que les opérations d'image reposent principalement sur leur capacité à renvoyer à autre chose qu'à elle-même, à être un marqueur de l'autre, et qu'elles puisent leur efficacité dans l'altérité produite. Donc les images fonctionneraient donc comme des modes concrets d'apparition et d'action. Deleuze, lui, ne dote pas le cinéma d'une subjectivité ou d'un esprit, comme pouvait le faire Jean Epstein. Le cinéma est lié chez lui au fonctionnement du cerveau et de la pensée. Le cinéma comme un dispositif, non pas qui reproduit de la réalité, mais qui produit de la réalité. Il s'agit de processus d'intériorisation, supposant la rencontre d'un objet extérieur autonome et d'un sujet qui vient l'intérioriser et du coup s'en trouve modifié. Du coup, c'est le lien de l'homme et du monde qui doit devenir objet de croyance. La croyance ne s'adresse plus à un autre monde. L'homme est dans le monde comme dans une situation optique et sonore pure. Seule la croyance au monde peut relier l'homme à ce qu'il voit et entend. Il faut que le cinéma filme non pas le monde, mais la croyance à ce monde. Il faut croire au corps. Il faut rendre le discours au corps. Et pour cela, atteindre le corps avant les discours, avant les mots. Je crois que ça renvoyait bien aussi au titre de l'intervention « Faire cher ». Les théoriciens du cinéma ont ainsi très tôt remarqué cette puissance donc propre au cinéma à animer le réel, à faire circuler les âmes, le cinéma en gros comme un réanimateur. Pour aborder succinctement le cinéma d'Apichatpong Veracetakul, j'ai repris des éléments de réflexion de deux théoriciens, Erin Manning et Éric Bordelot, dans un ouvrage collectif intitulé « Fabulation nocturne, écologie, vitalité et opacité dans le cinéma d'Apichatpong Veracetakul ». Je pourrais vous redonner les références. Donc, selon eux, les films d'Apichatpong proposent des écologies collectives de pensée. Écologie moins dans le sens d'une forme de révérence envers la nature, mais plus dans le souci de cohabitation d'une multiplicité d'êtres différents être différents, souvent tenus séparés par des divisions telles que humain, non-humain, vivant et mort. L'œuvre s'active dans un champ de relations vibrant d'intercession. Le cinéma d'Apichatpong requiert d'être rêvé. Là, je vais citer du coup Apichatpong. Ainsi, le cinéma peut être un fantôme en ce sens, car c'est quelque chose qui doit être rêvé. Le cinéma est un véhicule que nous produisons pour nous-mêmes et qui fait partie de nous. C'est comme une extension de notre âme qui se manifeste. Du coup, le cinéma doit être rêvé non pas pour en démêler le contenu, mais pour engendrer plus de puissance rêvante, pour explorer ce qu'Éric Bordelot appelle des degrés de défocalisation inédits. On assiste au déploiement donc d'une nouvelle consistance ontologique. Les souvenirs entre les personnages entrent en partage dans les films d'Apichatpong. Les souvenirs s'affectent entre eux. Les rapports familiaux se réinventent et font place à de nouvelles formes de vie et de nouveaux modes d'existence. Ce renouveau constitue donc un groupe sujet, un nouveau groupe émergent. Donc là, je cite Brian Massoumi, qui a également cité Juliana. Donc un groupe sujet qui explore et qui change à mesure que les conditions changent au lieu de se cristalliser. Les logiques d'identité et d'appartenance sont ainsi redéfinies au cours du film. Erin Manning émet le concept de mouvement relationnel. Je trouve ça un concept vraiment intéressant. Afin de souligner le devenir monde du mouvement. Le cinéma d'Apichatpong regorge d'états virtuels, d'entre-mondes transitoires, où se rencontrent les vivants et les morts, et parfois même se rencontrent de manière charnelle, entre la scène d'amour entre une princesse et un poisson-chat, dans le film Oncle Bonnemé. Je cite encore Apichatpong. Avec le bouddhisme, on n'a plus vraiment besoin de cinéma. Si l'on sait comment utiliser notre esprit, parce que notre esprit est le meilleur projecteur du monde, il accumule une somme d'histoires non racontées à travers les siècles. Enfin, c'est ce que prétend le bouddhisme. Le truc, c'est de savoir décoder ce qui a été enregistré dans votre disque dur. Je pense que celle-ci est à méditer. Donc, si nous savions suffisamment entrer en nous-mêmes, alors peut-être nous n'aurions plus besoin de supports mémoriels ou d'organes externes de projection. Nous pourrions, en somme, nous passer du dispositif cinéma. Brian Massoumi parle également du cinéma comme mode d'abstraction. Donc le cinéma est un mode d'abstraction, comme la méditation. Le cinéma d'Apichatpong est affaire de fabrication d'âme et de conduite des esprits.